Radio Kapi.
Denis Kadima, confirmé président de la CENI en remplacement de Corneille Nanga. Ceci est contenu dans les ordonnances d'investiture des nouveaux membres de la CENI, ordonnance signée hier par le chef de l'État. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, attendu aujourd'hui à Beni. Parmi les attentes de la population locale, un fort engagement de l'ONU dans la neutralisation de l'ADF. Avant Beni, Jean-Pierre Lacroix était à Kalemie. Invité de ce journal, il évoque notamment la question de l'incursion rwandaise sur le sol congolais. Et puis, la gratuité est un droit constitutionnel, elle est donc irréversible et non négociable. Il est hors de question que la gratuité de l'enseignement repose sur l'exploitation des enseignants. Déclaration du secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Chollet s'exprimait ainsi hier lors d'un point de presse à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République a signé hier les ordonnances d'investiture des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ainsi donc, Denis Kadima est investi président de la Commission électorale en remplacement de Corneille Nanga. Dans son adresse à la Nation, retransmise à la RTNC, Félix-Antoine Tshisekedi exhorte les nouveaux animateurs de cette institution à travailler pour la tenue des élections libres et transparentes en 2023. On écoute le chef de l'État dans cet extrait. Sélectionné par Paul Matendo Mayamba.
J'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, nous avons bon espoir que les trois délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe et prendre toute leur place dans ce processus qui nous concerne tous, Congolaises et Congolais. Ainsi, j'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la communauté internationale, à travers ces missions d'observation, à nous accompagner afin de garantir la tenue d'élections crédibles en 2023. Pour ma part, je compte désigner rapidement auprès de moi un responsable du suivi du bon déroulement du processus électoral.
Toutes nos excuses pour la qualité moins bonne de cet élément sonore. Notez aussi que plusieurs autres ordonnances ont été lues par la porte-parole adjointe du président de la République, Tina Salama, ordonnance portant nomination des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, notamment en Belgique, Grande-Bretagne, France, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, Chine, et aussi un représentant permanent de la RDC à l'ONU. Le chef de l'État a aussi créé un comité national des Jeux de la Francophonie. Entre-temps, à Kananga, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, dit attendre impatiemment l'organisation des élections du gouverneur et son vice pour le Kasaï central. Le président fédéral du parti présidentiel l'a déclaré hier à Radio Kapi à la suite d'une lettre du vice-premier ministre de l'Intérieur, lettre datée du 18 octobre adressée à la CENI, lui demandant de prendre des dispositions utiles dans ce sens. À en croire Gabriel Ilunga, la province est bloquée alors que la population attend la réalisation du projet Chute Katende et la réhabilitation de la route Kalambambouji. Gabriel Ilunga, président fédéral de l'UDPS, au micro de François Kadima.
Trois mois que nous sommes devant la CENI, on réclamait les élections. La lettre nous a trouvés devant la CENI, mais nous attendons jusqu'à ce qu'on va publier le calendrier. Vous savez très bien comment nous sommes jugés par la population, que c'est l'UDPS qui dirige la province. Nous sommes vraiment devant un problème, la population nous attaque de gauche à droite. Voilà pourquoi nous sommes devant la CENI, pour réclamer les élections. Nous voulons voir quand même un gouverneur responsable pour réaliser quand même certains des projets. Par exemple, le projet de Chute Katende et le problème de Kalambambouji. Nous sommes vraiment déterminés. Voilà, s'il n'y a pas un gouverneur responsable, on ne peut pas réaliser ça. Voilà, nous ne pouvons pas dormir. C'est une situation qui nous dépasse. Voilà pourquoi on a précipité quand même l'étape pour rester devant la CENI. Et aujourd'hui, le vice-premier ministre a saisi quand même la CENI pour que la CENI puisse organiser des élections.
Notons que depuis le départ de Martin Kabuya comme gouverneur, à la suite d'une motion de défiance et la mort d'Ambroise Kamukuni, le vice-gouverneur, le Kasaï central est dirigé actuellement par Tarcisse Kabatusuila, qui était ministre provincial de l'Intérieur. Je vous le disais en titre, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix en séjour en RDC depuis 3 jours est attendu aujourd'hui à Beni. Il y a plusieurs attentes sur l'arrivée de Jean-Pierre Lacroix dans cette partie du Nord Kivu. Sur place, Martial Papi Mukeba nous en dit plus.
La première attente sur l'arrivée à Beni du secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, c'est un fort engagement de l'ONU dans la neutralisation de l'ADF. Ces dernières semaines, ce groupe armé a multiplié les attaques contre les civils dans les territoires de Beni au Nord Kivu et Djougou en Ituri. La société civile locale souhaite ainsi l'intensification des opérations militaires conjointes FARDC et Casque Bleu pour mettre fin à cette situation. La seconde attente, c'est la mise à contribution de la justice internationale pour la répression des tueries des civils dans les régions de Beni et de Djougou. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme souhaitent que Jean-Pierre Lacroix mette à profit son séjour à Beni pour palper du doigt la souffrance de la population et plaider à l'ONU pour une justice internationale et réparation des dommages aux victimes de ces tueries qui durent depuis plus de 7 ans. Signalons que le patron des opérations de maintien de la paix rencontrera la société civile, les autorités locales de Beni et les commandants des opérations Sokola 1. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, sachez que la MONUSCO maintiendra une présence militaire dans la partie nord du Tanganyika, précision du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations. Pour Jean-Pierre Lacroix, la mission de l'ONU travaillera avec l'armée congolaise pour apporter une réponse appropriée aux menaces des groupes armés dans le nord du pays. Il annonce parmi les priorités de l'ONU, notamment le soutien au développement du Tanganyika. Jean-Pierre Lacroix s'exprime depuis la ville de Kalemi au micro de Jean-Didier Ogobani.
Je voudrais dire que la MONUSCO se retire d'une grande partie du territoire du Tanganyika, mais pas de tout le territoire, puisque j'ai eu l'occasion de redire que dans la partie nord, là où il y a encore un problème de groupes armés sensibles et sérieux, la MONUSCO maintiendra une présence, et notamment une présence militaire, et nous comptons travailler avec les FARDC pour apporter une réponse sécuritaire appropriée à cette menace de groupes armés dans le nord. Et dans le reste de la province, les Nations Unies ne partent pas. Les Nations Unies resteront, les agences, les fonds, les programmes. Nous avons discuté ici à Kalemie avec les autorités, aussi avec la société civile, sur les principales priorités sur lesquelles nous allons travailler ensemble. Ces priorités, elles portent sur le renforcement des capacités de l'État, sur notamment en matière de justice, de police, soutien aux efforts de développement. J'ai mentionné que le PNUD ouvrirait prochainement un bureau ici, dans la province du Tanganyika, mais aussi soutien au désarmement, au DDRCS, soutien à l'implication des femmes dans les processus politiques, à la lutte contre les violences de genre.
Entre-temps, à Ituri, les attaques des hommes armés se sont intensifiées ces derniers jours dans plusieurs localités, constat fait hier par la coordination de la société civile de l'Ituri qui dresse un bilan d'au moins 16 morts et de nombreuses personnes blessées ou enlevées, ainsi que des dégâts matériels, cela en l'espace d'une semaine. Ces exactions ont été commises notamment dans les localités de Ndalia, de Kabrike vers Lopa, où des combats se déroulent depuis vendredi matin, et à Bunia, où 3 personnes ont été tuées vers Hoho. Le président de la coordination de la société civile de l'Ituri, Dieudonné Lossa, demande au gouvernement de renforcer sa présence dans toutes ces entités pour démanteler ces inciviques. Il est au micro d'Isaac Remoyope.
La province de l'Ituri est secouée depuis le début de la semaine par plusieurs cas de violations massives des droits de l'homme, de massacres de la population civile par les groupes armés. Il y a eu kidnapping de 8 personnes d'Alia, parmi lesquelles on a ramassé 5 corps. Le 18, il y a eu 5 personnes assassinées à Kabrik. Plusieurs pieds avec incendie de plusieurs maisons. C'est la même situation qu'on a connue aussi dans le territoire de Mahagi. Armée Codeco fait des incursions à répétition. Dans la ville de Bunia, le 19, on a assassiné 2 personnes à Hoho et la 3e personne a été assassinée à Mahagi. Mapera. Ce matin encore, la population autour de l'OPA s'est réveillée sous les coups des balles. On dénombre provisoirement 3 morts. Nous demandons à l'État de neutraliser totalement ces groupes armés parce qu'il n'y a pas d'autre voie par laquelle on peut arrêter ce genre de comportement.
Dans l'actualité aussi, la SENCO alerte sur la situation de la rentrée scolaire 2021-2022. Au cours d'un point de presse tenu hier à Kinshasa, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo a fait savoir que la gratuité est un droit constitutionnel. Elle est donc irréversible et non négociable. Toutefois, l'abbé Donatien Cholet précise que cela n'est possible que si les réformes nécessaires se mettent en place et que les moyens financiers les accompagnent. Il est hors de question que la gratuité pose sur l'exploitation des enseignants. Le gouvernement doit urgemment se pencher sur les questions soulevées, a-t-il martelé. L'abbé Donatien Cholet est au micro de Jeff Ngoy.
La SENCO a constaté qu'aucune de ces recommandations n'a été suffisamment prise en compte par le gouvernement. Il est clair que la situation qui prévaut actuellement dans les écoles conventionnées catholiques relève uniquement de la responsabilité du gouvernement et non des enseignants des écoles conventionnées catholiques. En effet, une récente enquête réalisée dans 19 provinces auprès d'un important échantillon de nos écoles mécanisées montre qu'au niveau primaire, il subsiste encore 1055 enseignants impayés NPNU sur un total de 7757 agents, soit 14%.
Santé. Dans la province du Kwilu, des décès à répétition des enfants de moins de 5 ans sont signalés dans la zone de santé de Mukedi, territoire de Gungu. Un cumul de plus de 165 décès causés par une anémie, cela depuis début septembre dernier. Le chef de la division provinciale de la santé du Kwilu annonce la descente sur place d'une équipe du ministère de la Santé du gouvernement central pour évaluer la situation. Docteur Jean-Pierre Bassaké, chef de la division provinciale de la santé au Kwilu, dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Il y a beaucoup plus de décès, oui. Il faut les actions de grande envergure, comme l'utilisation effective de la moustiquaire pour protéger les enfants. De deux, quand il y a de l'anémie, il faut que la population accepte de donner le sang. Si n'accepte pas de donner le sang, les mêmes causes vont produire les mêmes décès, c'est-à-dire que la diminution du sang amènera toujours à ce décès. Les gens présentent de la malaria et quand on fait le TDS, c'est positif. Mais en dehors de la malaria, quelqu'un peut souffrir d'une autre pathologie que nous ignorons, mais ça entraîne l'anémie, la diminution du sang. Nous, on n'a pas assez de moyens pour diagnostiquer d'autres pathologies qui peuvent être sous-jacentes. C'est comme ça que nous disons, il faut que les gens qui peuvent aller appuyer ces zones de santé, il n'y a pas de partenaire. Nous osons croire que dans une semaine ou plus tard, le niveau central pourra faire une descente. Mais le problème, c'est la mentalité. D'abord, de dormir sous la moustiquaire, puis d'accepter de donner son sang pour celui qui a besoin du sang. Nous devons avoir banque de sang et donneur. Et quand il y a anémie, on transfuse. Ça, le problème.
Coup d'envoi hier à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa de la première édition du Salon international du design mobilier et textile de Kinshasa, autrement appelé Kinshasa Design Week. Coup d'envoi donné par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Eustache Mwandi. Ce dernier a salué l'initiative et rassuré du soutien du gouvernement. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matouaki Mofelele.
Je suis merveilleux de voir l'esprit entrepreneurial créatif, parce que c'est le thème de cette exposition, entrepreneuriat créatif. J'ai découvert ce soir que des Congolais ont cet esprit entrepreneurial, des œuvres d'esprit, des œuvres inventives. Et voilà, comme ministre de l'entrepreneuriat, je me devais d'être là et j'encourage ces initiatives et je rassurais les artistes que j'ai rencontrés que le gouvernement est attentif à tout cela. Nous devons davantage y travailler. J'ai vu l'exposition de la Suède, l'exposition allemande, l'exposition congolaise. et je suis heureux de savoir qu'il y a des gens qui travaillent sur le design. J'ai appris en même temps que l'Académie des Beaux-Arts organise un département sur le design. Ce sont des choses à encourager. Le gouvernement, de par des instruments sur l'entrepreneuriat, sur l'accès au marché, l'accès au crédit et l'accès à la capacitation, voilà une manière du pouvoir public d'accompagner tout cet esprit entrepreneurial.
À leur tour, l'ambassadeur de la Suède en RDC et le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts ont encouragé les organisateurs à pérenniser ce salon initié par Tankila Studio. Ce salon se tient du 21 au 31 octobre à l'Académie des Beaux-Arts et à l'Institut français Aldela Gombe autour du thème « Entrepreneuriat créatif ». Des œuvres des designers suédois, allemands, français et congolais sont exposées. Le programme prévoit également une session de formation sur le design, des conférences et des moments de convivialité.
Actualité Afrique Monde.
Angela Merkel, ovationnée par les dirigeants européens lors de son dernier sommet à Bruxelles, la chancelière allemande participe depuis jeudi à ce qui devrait être son dernier sommet européen, le 107e depuis qu'elle est arrivée au pouvoir il y a 16 ans. Les dirigeants européens ont salué une dirigeante présentée comme une machine à compromis qui aura contribué à stabiliser l'Union européenne à travers de nombreuses crises.
L'invité.
Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix a clôturé sa visite des 2 jours à Kalemie. L'objectif était de discuter du retrait de la MONUSCO avec le personnel de la mission onusienne, les organisations de la société civile et les autorités provinciales. À l'issue de ces échanges, Jean-Pierre Lacroix a précisé que la MONUSCO maintiendra sa présence militaire dans la partie nord du Tanganyika. Il a aussi promis le soutien de la mission onusienne à l'armée congolaise. Jean-Pierre Lacroix évoque la question de l'incursion rwandaise sur le sol congolais et donne ici son avis sur la cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs. Il s'entretient avec Jean-Didier Ogoubani.
Monsieur le secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de conclure votre séjour dans le Tanganyika, où la mission de l'ONU va se retirer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui pense que la MONUSCO a encore un rôle à jouer dans cette partie du pays?
Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que la MONUSCO se retire d'une grande partie du territoire du Tanganyika, mais pas de tout le territoire, puisque j'ai eu l'occasion de redire que dans la partie nord, là où il y a encore un problème de groupes armés sensibles et sérieux, la MONUSCO maintiendra une présence, et notamment une présence militaire, et nous comptons travailler avec les FARDC pour apporter une réponse sécuritaire appropriée à cette menace de groupes armés dans le nord. Et dans le reste de la province, les Nations Unies ne partent pas. Les Nations Unies resteront, les agences, les fonds, les programmes, et nous avons discuté ici à Kalemie, avec les autorités, aussi avec la société civile, sur les principales priorités sur lesquelles nous allons travailler ensemble. Et ces priorités, elles portent sur le renforcement des capacités de l'État, sur notamment en matière de justice, de police, soutien aux efforts de développement. J'ai mentionné que le PNUD ouvrirait prochainement un bureau ici, dans la province du Tanganyika, mais aussi soutien au désarmement, au DDRCS, soutien à l'implication des femmes dans les processus politiques, à la lutte contre les violences de genre. Nous avons des priorités qui se rejoignent pleinement avec les autorités locales, aussi avec la société civile. Et là où il faudra renforcer les capacités pour faire avancer ces priorités, et bien tous les efforts seront faits pour le faire.
Renforcer les capacités, mais vous savez que la province est gangrénée par le conflit Twa Bantu. Quel conseil pouvez-vous donner à ces communautés pour une solution pérenne?
Là, il y a d'abord la partie, si vous voulez, de formation des institutions de l'État. Je parlais de la police et de la justice, mais nous avons aussi beaucoup parlé des efforts de rapprochement des communautés et de dialogue. Les représentants de la société civile nous le disent elles-mêmes, et aussi les autorités. Il y a des actions qui sont déjà engagées dans ce domaine. Il faut les poursuivre, il faut les intensifier. Ce sera aussi le rôle des Nations Unies à l'avenir de poursuivre dans ce sens. Et c'est pour ça qu'il y a, je crois, beaucoup d'intérêt à ce que les représentants des communautés au niveau niveau local puissent vraiment être renforcées en tant qu'interlocuteurs pour qu'elles puissent avoir toute leur place dans ces efforts de manière à ce qu'il y ait vraiment une mobilisation totale des communautés pour résoudre ces problèmes de conflit qui sont effectivement encore très très présents.
Monsieur Lacroix, après le Tanganyika, vous vous rendez dans l'est de la RDC. Vous êtes sans ignorer que le Rwanda venait de faire une brève incursion le 18 octobre, relançant ici la question de soutien des pays voisins aux groupes armés. Que diriez-vous aux dirigeants de la région des Grands Lacs pour une cohabitation pacifique?
Eh bien, moi je suis persuadé qu'une des questions clés liées aux problématiques de sécurité dans l'est du Congo, c'est le renforcement des efforts au niveau régionaux. Le président de la République, d'ailleurs, a beaucoup fait d'efforts dans ce domaine en intensifiant les contacts avec ses homologues de la région. Nous avons de notre côté, les Nations Unies ont un envoyé spécial pour la région des Grands Lacs avec lequel la MONUSCO et notamment Mme Keïta, la SRSJ, travaillent étroitement. Et ces efforts sont essentiels. C'est certain, il y a une problématique régionale, une problématique de mouvements transfrontaliers, d'armes, biens ou de produits souvent malheureusement issus d'exploitation illégale des ressources naturelles. Il y a en réalité des intérêts mutuels très forts qui convient de valoriser et de mettre en lumière, parce que cette région, elle se développera dans un esprit de coordination, de coopération mutuelle. C'est la voie de l'avenir, c'est, je pense, un des éléments clés de la solution. Et nous encourageons vraiment ces efforts de renforcement de la coopération régionale sur les questions de sécurité, de paix et aussi sur les questions de développement. Tout ça nous paraît extrêmement fondamental.
Monsieur Jean-Pierre Lacroix, merci.
Merci beaucoup.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, était avec Jean-Didier Ogobani Massoudi. Voilà tout pour ce journal supervisé par Ben Kabamba, coordination de Richard Junior Kamunga. Sachez que vous pouvez retrouver ce journal sur notre site www.radiokapi.net.